tous pour une nouvelle émission de Radio Cartable LFIGP.
La cinquième, mais avec les nouveaux CM2, D3 et D6.
Au sommaire de cette émission, la rubrique actualité, la rubrique geek avec l'application Endomondo, la rubrique cinéma avec le film Les Mignons, une interview du proviseur Monsieur Coé. Dans la rubrique histoire de l'art, nous vous parlerons du site antique de Palmyre. Dans la rubrique musique, nous allons vous parler de Ellie Goulding. Nous allons vous parler dans la rubrique littéraire de Thea Sister. Micro-trottoir, la question combien de temps passez-vous à faire vos devoirs, notre jeu musical et tout de suite, l'actu.
La Lune Rouge. Dans la nuit de dimanche à lundi, entre 2h11 et 7h22, nous avons pu observer un phénomène assez rare et spectaculaire. Une éclipse de Lune. Passée dans l'ombre de la Terre, la Lune était parfaitement alignée avec le Soleil et notre planète. Éclipsée, c'est-à-dire plongée petit à petit dans l'ombre. La Lune est ensuite devenue rouge. Cette couleur provient de l'éclairage des rayons du Soleil après leur passage dans l'atmosphère de la Terre. La prochaine éclipse totale de Lune colorée en rouge aura lieu en 2033, mais elle ne sera pas visible en France. En Europe, la dernière fois que nous avons pu admirer une pleine Lune intégralement plongée dans l'ombre de la Terre remonte au 15 juin 2011, et le spectacle s'était déroulé dans des conditions délicates, le soir au crépuscule et très bas sur l'horizon sud-est. La star de la semaine, en revanche, c'est Mars. La NASA a annoncé que de l'eau salée coulerait sur la planète rouge. Une découverte très importante selon les scientifiques.
De l'eau salée à la surface de Mars. L'agence spatiale américaine, la NASA, a pour la première fois confirmé avoir les preuves que de l'eau liquide s'écoule à la surface de Mars dans des conditions très particulières. Ce que la NASA a découvert. Depuis 2010, l'agence avait identifié de nombreuses traces sombres sur des flancs de montagnes et supposé qu'il s'agissait d'eau. La NASA a détecté la présence de sels minéraux hydratés. Quelle est la composition de cette eau? L'eau n'est pas bonne à boire. Il s'agit de saumure, une solution saturée en perchlorate, des sels de magnésium et de sodium. Quelle est la prochaine étape? La NASA doit envoyer un nouveau robot en 2020 qui sera chargé de collecter des échantillons qui seront stockés pour être ramenés sur Terre lors d'une future mission si tout va bien. Et la vie dans tout ça? Il y a 3 milliards d'années, Mars était une planète similaire à la Terre, avec des océans et des lacs. On pense que la vie a pu exister par le passé, mais on ne sait pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, disent les scientifiques. Selon eux, la découverte d'eau liquide représente toutefois un élément crucial. Y a-t-il des êtres vivants sur Mars encore aujourd'hui?
Les migrants. Alors que l'Allemagne ferme ses frontières temporairement et que d'autres pays ferment leur territoire, l'Europe rappelle à tous ses membres l'importance de l'espace Schengen. Mais c'est quoi l'espace Schengen? L'espace Schengen. L'histoire commence en 1985 lorsque 5 États membres de l'Union européenne décident de supprimer les contrôles aux frontières intérieures. L'espace Schengen est né. Aujourd'hui, au sein de cet espace couvrant la presque totalité du continent européen, les frontières n'existent plus que sur le papier. Aujourd'hui, la crise des migrants liée au conflit, notamment en Syrie, a provoqué une remise en question de l'espace Schengen. L'Union européenne a décidé que chaque pays devait recevoir un quota de migrants. Pour rappel, la France s'est engagée à accueillir 24 000 réfugiés fuyant leur pays en guerre. 1000 d'entre eux sont accueillis en urgence dès à présent. Des associations, mais aussi des centaines de particuliers participent à ce grand élan solidaire.
Pour les sorties cinéma, Hunger Games, La Révolte partie 2. Ce film de science-fiction sortira sur nos écrans le 18 novembre 2015. Alors que Panim est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. Katniss et ses proches amis sont envoyés en mission pour le District 13. À suivre. Autre film très attendu. Il vient de sortir, c'est Seul sur Mars, le film de Ridley Scott. Allez vite le voir.
Qu'est-ce que tu fais?
Ben, je teste ma nouvelle application Endomondo, tu connais pas?
Allez les geeks, à vous de jouer!
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans la rubrique Geek. Nous allons vous présenter une application qui s'appelle Endomondo. Grâce à elle, plus d'excuses. Mettez vos chaussures et c'est parti. Je laisse la parole à Saad.
Endomondo a pour objectif de motiver les gens à mener une vie active. Faire du sport de façon attrayante, ludique et sociale. C'est une application multi-activité. Avec Endomondo, vous pouvez suivre vos performances sportives et les récupérer sur votre smartphone dans presque toutes les disciplines. Course à pied, vélo, natation, ski, randonnée, escalade. Ce service en ligne gratuit propose ensuite de visualiser votre progression sur votre ordinateur, de les partager au travers des réseaux sociaux.
Une fois votre discipline choisie, vous devez régler des paramètres comme la durée de l'entraînement, le tracé du parcours ou encore le calcul de la vitesse optimale et envoyer ces données à votre smartphone. Vous pouvez aussi fixer l'objectif atteindre. Une fois votre activité faite, vous pouvez mettre sur le site tous vos résultats, mais vous pouvez aussi trouver des défis, des parcours à travers le monde entier. Alors, plus d'excuses, Ren. Je laisse la parole à Tom.
Pourquoi Endomondo existe ? En décembre 2007, trois collègues quittent leur emploi dans un cabinet de conseil pour lancer leur propre entreprise. Ils décident alors de poursuivre leur rêve, insister toujours pour plus de personnes à mener une vie active, en s'adressant à la fois aux sportifs réguliers et à celles et ceux qui souhaitent simplement retrouver la forme. Aujourd'hui, des millions d'utilisateurs du monde entier ont rejoint Endomondo et emportent l'application avec eux quand ils vont marcher, courir, faire du vélo, une randonnée ou encore bien d'autres activités. Je donne la parole à William.
Les trois fondateurs, Lieke, Birk et Yang, disent « Notre rêve est devenu réalité et grâce à vous, nous espérons avoir insisté toujours plus de personnes à mener une vie active ». So keep running les loulous.
Pas mal cette appli. Il faut que je la mette sur mon téléphone.
Envie de rire un peu?
Si oui, alors préparez le popcorn, allez au cinéma le plus proche et allez voir les Minions.
Bonjour, je m'appelle Basile et je suis avec Mélodie et Priscille. Nous allons vous présenter le film Les Mignons. Ce film est réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda. Je passe la parole à Priscille.
Ce film est un dérivé de la saga Moi moche et méchant, sorti en 2010 et en 2013. Il a été nominé au Festival d'animation d'Annecy en 2015. Plus de 6 millions de personnes en France, soit une personne sur 10, ont vu le film au cinéma depuis sa sortie. Il a rapporté un peu moins d'un milliard d'euros en 2 mois. C'est le film d'animation le plus rentable de l'histoire après La Reine des Neiges.
À l'origine de simples organismes de couleur jaune, les mignons ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects, les uns que les autres. Les disparitions répétitives des maîtres, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les mignons dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Aidé de Stuart et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois mignons se lancent dans un voyage excitant qui va les conduire à leur nouveau maître, Scarlett Overkill, la première super méchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années 60, les trois mignons arrivent finalement à Londres où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur existence, la disparition de leur espèce.
Et pour finir, écoutons un petit extrait. Et n'oubliez pas vos bananes.
Oh Walter, regarde, ces adorables petits monstres vont aussi à Orlando.
Vous allez à la foire du mal, pas vrai?
Foire du mal!
Je vais demander des autographes à mes méchants préférés. Scarlett Overkill! Si j'étais un mignon, c'est pour elle que je voudrais travailler. La foire du mal!
À bientôt.
Ben alors, ça ne te fait pas rire?
Chut, il y a le proviseur qui arrive.
Il est arrivé à Dubaï à la rentrée 2012 et occupe la fonction de chef d'établissement au LFIGP. Bonjour monsieur le proviseur, merci de votre présence à Radio Cartable LFIGP.
Bonjour.
Pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer en quoi consiste le métier de chef d'établissement ?
C'est un métier extrêmement complexe et en même temps simple. Le métier de chef d'établissement, c'est un peu celui de chef d'orchestre. C'est celui de mettre en musique, au LFIGP par exemple, 2700 élèves, 290 personnes, les parents. Et c'est un métier qui met en synergie, ce qu'on appelle en synergie, c'est un mot compliqué. La synergie, c'est par exemple quand on fait 1 plus 1, normalement c'est 2. La synergie, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire de faire travailler tout le monde ensemble pour faire réussir tous les enfants que les parents nous ont confiés. C'est ce que vous voyez sur le symbole de l'école, le lycée français Georges Pompidou, c'est l'excellence pour tous. C'est aussi le métier de chef d'établissement à l'étranger, hein, c'est aussi celui de faire du management, c'est aussi celui de choisir les enseignants, de choisir les personnels, de les recruter. C'est aussi celui de gérer un budget, c'est-à-dire gérer l'argent de l'école, l'argent que les familles nous donnent. C'est environ 90 millions de dirhams, soit 21 millions d'euros à peu près. C'est aussi celui de faire connaître l'image de l'école, c'est-à-dire pour que nos élèves qui sont à l'extérieur, nos élèves qui sont en terminale, puissent avoir de très très bonnes écoles à la sortie. Ça, c'est les grandes parts un peu... les belles parts du métier. Mais le métier de chef d'établissement, c'est aussi celui de temps en temps d'être de mauvaise humeur. C'est celui de sanctionner certains élèves quand ils sont pas sages. C'est aussi celui de rencontrer les parents. C'est aussi celui de résoudre les problèmes qu'il y a tous les matins quand je me lève et quand je regarde mes messages en me disant « bah tiens, aujourd'hui, on va faire ça », en plus de la politique de l'école.
Pourquoi avez-vous donc choisi de passer le concours de chef d'établissement ?
Alors ça, c'est une longue histoire. Mon premier poste de professeur, vous verrez tout à l'heure, j'étais professeur de sciences naturelles. À l'époque, on disait sciences naturelles, maintenant on dit sciences et vie de la Terre. Mon premier poste était dans un petit collège au Havre, en Seine-Maritime. Et dans ce petit collège, j'avais un chef d'établissement qui était quelqu'un d'exceptionnel. Et en fait, j'ai choisi de devenir chef d'établissement par... image de ce que lui faisait, de l'enthousiasme qu'il donnait à ce collège où j'ai eu mon premier poste de professeur.
Depuis combien de temps êtes-vous chef d'établissement ?
Depuis 29 ans, 1986, date de mon premier poste dans un collège en Normandie.
Quelles sont les différences entre diriger un établissement en France et à l'étranger ?
Alors tout à l'heure, je vous disais que chef d'établissement, c'était être chef d'orchestre. Il y a le même orchestre en France, l'orchestre des enseignants, l'orchestre avec les élèves, l'orchestre avec les parents. La différence, c'est qu'en France, on ne fait pas toute la partie de management, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le recrutement, on ne gère pas le budget de la même façon. Et donc, c'est une partie qui est beaucoup plus tournée vers la pédagogie, vers l'enseignement et vers ce qu'on amène aux élèves.
Dans quel pays avez-vous déjà exercé ?
Alors, j'ai exercé en France... en Normandie, étonnamment, hein, en Basse-Normandie, à Valognes, c'est une petite ville à côté de Cherbourg. En Haute-Normandie, c'est dans ce qu'on appelle le Pays de Caux, c'est vers Le Havre et Rouen. Et puis après, je suis allé exercer dans une île très loin, à Mayotte, qui est une île française, dans les Comores. Puis ensuite, j'ai exercé au Burkina Faso, à Ouagadougou, comme proviseur. puis ensuite à Hong Kong, comme proviseur aussi d'un lycée français, et puis à Dubaï, où je suis maintenant.
Pourriez-vous comparer notre école aux autres établissements où vous avez travaillé ?
Alors je dirais que c'est la plus grande, puisqu'il y a 2700 élèves. À Hong Kong, j'en avais moins, au Burkina, il y en avait moins. C'est la plus belle, parce que les espaces de notre école sont vraiment des très jolis espaces et très agréables. Mais c'est quand la même école qu'au Burkina Faso, qu'en France ou qu'à Hong Kong. Ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes supports qui nous guident et qui nous portent pour vous faire réussir.
Avez-vous des passions en dehors de votre métier ? Si oui, lesquelles ?
Oui, j'en ai une. Je vais vous dire un secret. Je suis pilote d'avion et ma passion, c'est de piloter.
Quel est votre sport préféré ?
J'en ai pas qu'un, j'en ai deux. J'aime bien le ski et le golf.
À votre avis, qu'est-ce qu'un bon élève ?
C'est une question compliquée et une question difficile. Un bon élève, c'est pas obligatoirement celui qui obtient 18 partout. Un bon élève, pour moi, c'est celui qui se donne au maximum pour réussir. C'est celui qui a envie d'apprendre, c'est celui qui essaye de progresser, c'est celui qui est responsable de sa réussite. Et c'est ça le plus important. Dans le monde de l'enseignement, on dit qu'il faut que l'élève soit acteur de sa réussite. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est extrêmement important. Et le bon élève, c'est celui justement qui est son propre acteur, que l'école va accompagner, que les enseignants vont accompagner, que les parents vont accompagner. Mais le bon élève, c'est celui qui va utiliser tout ça pour pouvoir réussir.
Quelle était votre matière préférée à l'école ?
C'est celle pour laquelle je suis devenu professeur, c'est-à-dire les sciences naturelles.
Et enfin, comment était votre CM2 ?
Alors c'est un peu particulier parce que mon CM2, c'est mon père qui était mon professeur. Parce que mon père était professeur et c'est lui que j'avais dans la classe. Donc mon CM2 était un petit peu particulier où je vous voyais, mon père, quand j'étais dans la classe et quand je rentrais à la maison ou à la récréation quand on avait fini, je le tutoyais et je l'appelais papa. Donc mon CM2, c'était un peu ça. Mon CM2, c'était un moment très sympa, très agréable, à Paris, dans une vieille école. Les enseignants étaient en blouse, c'était il y a un certain temps déjà. Et puis ensuite, je suis rentré en 6e, après le CM2. Donc pour moi, le CM2, j'en garde un excellent souvenir.
Merci encore de votre venue, et à bientôt.
Merci à vous et bon courage.
Merci. Merci. Sympa le proviseur.
Au moins l'an prochain, le proviseur ne pourra pas nous reprocher d'avoir la tête dans les nuages.
Allez, un sujet délicat qui mérite un petit détour.
Direction la Syrie.
Oui, espérons que le site pourra être sauvé et restauré à la fin de ce conflit.
Nous avons beaucoup entendu parler à la télévision ces derniers mois. Site historique menacé, nous lui consacrons ce numéro. Palmyre. Oasis du désert de Syrie au nord-est de Damas, Palmyre abrite les ruines monumentales d'une grande ville qui fut l'un des plus importants foyers culturels du monde antique.
Au carrefour de plusieurs civilisations, l'art et l'architecture de Palmyre unirent au 1er et au 2e siècle les techniques gréco-romaines, aux traditions locales et aux influences de la Perse. Mentionné pour la première fois dans les archives au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Palmyre était un oasis caravanière établi lorsqu'elle entra sous contrôle romaine dans la première moitié du 1er siècle et fut rattachée à la province romaine de Syrie.
Elle devient peu à peu une cité prospère sur la route commerçante reliant la Perse, l'Inde et la Chine à l'Empire romain. Au carrefour de plusieurs civilisations du monde antique. Longue de 1100 mètres, la grande colonnade constitue l'axe monumental de la ville qui, avec d'autres rues secondaires perpendiculaires également bordées de colonnes, relie les principaux monuments publics dont le temple de Bel, le camp de Dioclétien, l'agora, le théâtre, d'autres temples et des quartiers d'habitation.
L'ornementation architecturale qui présente notamment des exemples uniques de sculptures funéraires associe les formes de l'art gréco-romain et à des éléments autochtones et à des influences perses d'un style
dans un style profondément original. En dehors de l'enceinte fortifiée se dressent les vestiges d'un oecodec romain et d'immenses nécropoles. La découverte des ruines de la cité par les voyageurs au XVIIe et au XVIIIe siècle a influencé par la suite les styles d'architecture.
Voilà, nous espérons que vous comprendrez mieux pourquoi ce lieu est important.
Allez, un peu plus de fun, un peu plus de pop avec Ellie Goulding.
J'espère que vous êtes allés la voir en concert à Dubaï, car c'était vraiment génial.
So today we're going to talk about the famous, amazing singer Ellie Goulding. Alina Jane Goulding, born 30 December 1986, is an English singer, songwriter, and multi-instrumentalist. Her career began when she met record producer Star Smith and Frank Music, and she was later spotted by Jamie Lily White, who later became her manager and A&R. After signing Polydor Records in July 2009, Goulding released her debut extended Play an Introduction to Ellie Goulding later that year.
And more for the gossip. Goulding dated radio DJ Greg James from 2010 to January 2012. After 18 months relationship, she was in a relationship with DJ Skrillex for a year in 2012. She dated actor Jeremy Irvin in 2012 to June 2013. In May 2014, Dougie Pointer from rock band McFly confirmed his dating Goulding.
Alina Jane Goulding was born in Hereford and raised in Lionshale, a small village near Kington. Herefordshire, the second of four children, she has a brother and two sisters. Her mother, Tracy, used to work at a supermarket, and her father, Arthur Goulding, came from a family of undertakers. When she was five, her parents separated. Later, she had a stepfather who has a lorry driver.
Although Ellie Goulding signed to Polydor Records in July 2009, independent label Neon Light, Neon Gold Records, the single peaked at number 53 on the UK single charts following a successful appearance on Later, with Jules Holland performing Under the Sheets.
And now for her artistry and influence. Goulding possesses the vocal range of light lyric soprano that spans 3.5 octaves and is noted for her high precision vibrato, breathy tone, and emotive delivery. In a review for Helico, Neil McCormick of the Daily Telegraph described her voice as something special. Continuing, her tremulous vibrato and lightly hoarse timbre have a to feel of something primal and folkier. Her bird-like high notes conveying childlike wonder, while darker tones imply ancient depth of sorrow. She sings like she is strung out of the melody, wobbling from a place of desperate emotions.
And now we will listen to her amazing new song, On My Mind.
You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind.
Thank you for listening to Radio Cartable.
Attention, ça va chauffer. Les acrobates du cirque et Louise arrivent. Ils ont invité nos journalistes avant leur spectacle.
Bonjour et bienvenue au World Trade Center où l'équipe de Radio Cartable LUCGP a le plaisir de se trouver pour le premier interview de la saison. Merci pour votre disponibilité, car nous savons que c'est un véritable marathon que vous avez avec toutes ces représentations entre Abu Dhabi et Dubaï.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Moi, c'est Alexis Maheu, je viens du Québec et j'ai 20 ans et je suis acrobate aérienne.
Je m'appelle Antonin Vicky, j'ai 24 ans, je viens de Suisse et je suis généraliste, machinois, je fais aussi du clown, je fais un peu de tout dans le cirque.
D'où vient le nom de ce spectacle ?
Alors, Circopolis, il y a le nom Circo qu'on peut reconnaître dedans, qui veut dire cirque. Hein. Et puis Police, ça fait référence à, par exemple, un film assez connu, Metropolis, qui mélange le cirque et la ville, on va dire, qui est les deux thèmes principaux. Le thème principal, c'est l'industrie, la ville, tout ce qui entoure ça, tout ce qui est mécanique. Du coup, Circopolis, c'est un nouveau nom qui réunit le cirque et la ville, on va dire.
Alexis, que ressentez-vous lorsque vous êtes en hauteur ?
Ah, c'est génial. Aussi, j'aime bien voltiger, les moments où je suis vraiment en suspension dans les airs. Puis je pense que le fait de dévier la gravité, j'aime bien faire ça.
Antonin, parmi vos spécialités circassiennes, quelle est votre préférée ?
En tant qu'acrobate, j'aime tout ce qui est vraiment acrobatique. Ben, le machinois en fait partie. J'ai eu comme spécialité, encore aujourd'hui, longtemps, le clown aussi, qui fait partie de mes choses des choses les plus enrichissantes pour moi sur scène, de pouvoir jouer aussi autant bien acrobatiquement que jouer avec les gens. Et le clown apporte quelque chose de très théâtral aussi au cirque que j'aime faire aussi beaucoup.
Où avez-vous appris tout cela ?
Dans mon jardin, d'abord, quand j'étais jeune, sur les balançoires, les petits trapèzes. Mais ensuite, vers l'âge de 8 ans, je suis allée à l'école de cirque de Québec.
C'est un peu pareil, j'ai commencé très tôt avec la gymnastique artistique. J'avais une famille de gymnastes, puis j'étais un peu obligé de le faire, mais j'étais content quand même. Et puis j'ai commencé vers l'âge de 5 ans la gymnastique artistique. Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai aussi découvert un peu les arts et qu'est-ce qui liait tout ça. C'était le cirque et puis je me suis mis dans une école de cirque. J'ai appris un peu tout et ensuite je suis rentré aussi à l'École nationale de Montréal pour encore me développer avec Alexis aussi, on était ensemble là-bas. Et puis du coup, on a atterri au cirque à Loise après, donc c'était un beau parcours depuis tout petit en fait.
Combien d'heures d'entraînement faites-vous ?
Ça dépend vraiment des périodes. Quand on est en période de spectacle comme ça, où on a deux représentations par jour, c'est vraiment difficile de trouver du temps pour s'entraîner. Puis en soi, le spectacle, c'est de l'entraînement, en fait. Mais sinon, quand on était à l'école l'année passée déjà, on avait par jour 7-8 heures d'entraînement, par semaine peut-être 30-35 heures. On a eu ça pendant 3 ans avant de devenir professionnel.
Quelle est la différence entre le cirque traditionnel et celui que vous présentez ?
C'est un monde un petit peu différent. Le cirque a un peu évolué il y a environ une trentaine d'années. Le cirque traditionnel existe toujours. On y voit encore, on peut y voir des animaux. Généralement, c'est des numéros qui sont mis les uns après les autres, avec un présentateur, Monsieur Loyal, par exemple. Le cirque contemporain, on va dire, comme nous on le présente avec Circopolis, c'est qu'il y a une histoire, il y a une dramaturgie générale, il y a des personnages, on y trouve aussi de la danse, du jeu, des performances circassiennes. C'est quelque chose de plus global et plus généraliste que le cirque traditionnel. C'est deux choses un peu différentes, mais les deux choses sont très belles aussi à voir.
Et pour terminer, c'était comment votre CM2 ?
C'est l'école, mais bon, tu t'amuses, t'as plein d'amis. Non, c'était bien. C'est toujours bien d'apprendre aussi. Je pense que j'aimais bien apprendre encore à l'école à ce moment-là.
Puis après.
Puis après aussi, mais différemment. mais je sais que je faisais déjà du cirque à cet âge-là et que tout le monde me trouvait un peu bizarre. je faisais de la contorsion ou des choses comme ça. Mais il faut l'assumer. Il faut assumer d'être étrange et spécial.
Pas tout à fait comme Alex. Moi, j'ai aussi un très bon souvenir de toute ma primaire aussi, et CM2 du coup. Je faisais déjà beaucoup de gymnastique à cette époque-là et j'arrivais à lier les deux, mais c'était des beaux souvenirs avec les copains. Je pense comme vous, vous avez de la chance de pouvoir faire des choses comme des ateliers de cirque ou profiter à fond de tout ce que vous pouvez faire à côté, mais c'est que des beaux souvenirs à cet âge-là.
Merci Alexis, Antonin et Maxime pour votre temps et continuez à faire rêver petits et grands. C'était Radio Cartable, LFIGP, en direct du cirque Éloise.
Merci beaucoup.
Je crois qu'ils seront de retour à Dubaï au mois de décembre. C'est l'occasion d'aller les voir si vous ne les avez pas encore vus.
Tu connais Théa ?
Oui, elle est dans ma classe.
Mais non, je te parle des Théa Sisters.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre, ou plutôt d'une collection, intitulée « Les Théa Sisters ». Le premier livre est sorti en 2012, « Les Théa Sisters contre Vanilla Girl », et son auteur a eu beaucoup de succès. Son auteur, avec un E, puisque derrière « Théa Sisters » se cache « Elisabetta Dami ». D'origine italienne, elle est née à Milan en 1958. On ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle apprécie l'aventure. Elle fait des trekking notamment en Népal, court dans le désert, saut en parachute et a même son brevet de pilote.
Elisabetta a créé d'abord la série Jeromino Stilton et Théa Stilton avant que cela ne devienne les Théa Sisters. Aujourd'hui, ses ventes d'albums ont dépassé les 100 millions. Ils ont été publiés dans 150 pays et dans 40 langues différentes. C'est vous dire la très grande réussite rencontrée par cette Italienne. Mais les Théa Sisters, qui sont-elles? Ce sont cinq amies vraiment épatantes.
Il y a Colette. Colette a une vraie passion pour le rose et c'est la fille la plus fashion du groupe. Toujours occupée à soigner son look, elle est sans cesse en retard.
Il y a Violette. Violette aime étudier et découvrir sans cesse de nouvelles choses. Elle aime la musique classique et rêve de devenir une grande violoniste.
Il y a Pamela. Pamela mangerait sa pizza adorée même au petit déjeuner. C'est une mécanicienne accomplie. Donnez-lui un tournevis et elle vous réparera n'importe quel moteur.
Il y a Paulina. Paulina est un peu timide et brouillonne, mais aussi un peu altruiste. Comme elle aime voyager, elle connaît des gens de tous les pays.
Et il y a Nikki. Nikki est passionnée d'écologie et de nature. Elle vient d'Australie et aime la vie au grand air.
Elle ne tient pas en place.
Un petit extrait avant de se quitter.
Une surprise romantique. Dans la salle réservée à la rédaction du journal du collège, l'ambiance était électrique. Le nouveau numéro était sur le point de partir à l'impression, mais les principaux reportages n'étaient pas encore bouclés. Le groupe des garçons réunis dès le matin pour finaliser les pages sportives avait travaillé jusqu'à tard dans l'après-midi. C'était désormais à Tanja et à ses amis de prendre le relais. « Beau travail, collègues !» les salua Vic depuis la seuil de la porte. L'équipe féminine se précipita à l'intérieur en un clin d'œil. La pièce s'anima du cliquet, frénétique des doigts martelant les claviers des ordinateurs ainsi que les voix enjouées des filles en changeant des conseils et commentaires sur les articles à terminer.
Merci de votre écoute et à la prochaine pour un nouveau titre.
J'irai bien l'emprunter à la BCD à votre place.
Hey, dis, tu viens au stade avec moi ?
Non, désolé, j'ai trop de devoirs.
Bonjour, combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs?
Je prends au moins 5 minutes pour 10 minutes pour apprendre ma dictée.
À peu près 10 minutes pour faire tous les devoirs, les maths, et le français, et l'anglais et l'arabe.
Merci.
6 minutes pour les mathématiques, pour le français que 10 minutes et pour la dictée que 3 minutes.
Merci.
Combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs?
1h30. Et les devoirs qu'on fait, c'est numération, conjugaison, grammaire et des fois de apprendre une poésie. Merci.
Je mets une demi-heure. Et pour les devoirs, on fait, en ce moment, on fait de la conjugaison et des maths.
Combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
Je prends 30 minutes pour lire un texte et répondre à des questions.
Merci. Je prends 15 minutes pour faire 2 exercices de maths et 2 exercices de français chaque jour.
Merci.
Je prends 25 minutes avec 2 exercices de français et des exercices de maths.
Merci.
Bonjour, combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
À peu près 2 minutes. Ça se passe bien, à chaque fois que je ne veux pas faire mes devoirs, mon papa il dit « Allez, ça prend 2 minutes, donc je fais et je l'écoute. »
Bonjour, combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
Ben, moi je prends 5 minutes. Et en fait, ce que je dois faire, c'est simple. C'est la maîtresse, elle nous prête un livre qu'on doit surtout pas déchirer tout ça parce qu'elle nous le donne pas surtout. Et en fait, on doit lire une page par jour et on doit donner notre cahier blanc à notre mère pour enfin notre maman pour qu'elle nous signe ou notre père, enfin notre papa pour qu'il nous signe aussi. Enfin, ils sont pas obligés de signer tous les deux.
Bonjour, combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
45 minutes.
Quel est le genre de devoir que vous avez ?
De la lecture et de l'écriture.
Ça prend 30 minutes et français, parfois géographie, et ça dépend.
Merci.
Bonjour, combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ? Et quoi comme devoir ?
1h30. Les maths, le français, la lecture, l'orthographe et l'anglais.
D'accord, merci.
45 minutes ou 1h15. Pour les devoirs, j'ai des maths, de l'orthographe, de l'histoire, de la géographie, de la lecture et tout.
D'accord, merci. Bonjour, combien de temps mettez-vous pour faire vos devoirs et que sont vos devoirs ?
Ça dépend. Si c'est des devoirs qui sont à peu près faciles, ça peut prendre 10 minutes ou 5. Et si c'est des durs, ça prend 30 minutes. Et nos devoirs, c'est plutôt des mathématiques ou du français.
Merci.
Des fois, je prends 1 heure pour faire mes devoirs. Et en général, on a du français et des maths.
Merci.
Ça prend 30 minutes et français, parfois géographie, et ça dépend.
Merci.
Combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
Je prends 30 minutes. Les matières que je prends le plus de temps, c'est sur la géométrie.
Merci.
Ça dépend du nombre de devoirs que j'ai à faire, s'ils sont longs ou courts.
Merci.
Des fois, je prends 1 heure parce que je prends des pauses.
Merci.
Je prends 15 minutes à faire mes devoirs et je prends un peu plus de temps parce que des fois je mange en même temps.
Merci.
Combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs et quels sont les genres de devoirs que vous avez ?
Une demi-heure et des fois des maths, du français.
Merci.
On a des maths, on a du français, des petites fiches à finir. D'habitude, je mets 1 heure à faire mes devoirs.
Merci.
On a des maths, nos devoirs, on prend 5 minutes ou un quart d'heure ou 30 minutes. Moi, je sais pas.
Merci.
Combien de temps prenez-vous pour faire vos devoirs ?
Maximum 30 minutes.
Sur l'arabe et l'anglais.
Merci.
Je prends au moins 45 minutes et pour l'arabe, ça me prend beaucoup plus de temps parce que c'est un peu difficile pour moi.
Merci.
Maximum 30 minutes. C'est sur l'arabe.
Merci.
Et on fait des mathématiques et français.
Merci.
Allez les profs, un petit peu moins de devoirs.
Je crois que tu rêves.
Un jeu musical, ça vous dit ?
Alors, écoutez attentivement ces 6 chansons déformées et si vous les reconnaissez, notez les 6 titres sur une feuille que vous donnerez au maître des CM2, D3 ou D6.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party.
Only New York, au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au froid des chevaux.
Pas facile, bon courage.
La rentrée se fait souvent en chanson. Écoutons nos camarades de différentes classes en trois langues.
Bonjour, nous sommes dans la classe de CPD5 qui va nous chanter deux petites chansons sur l'école.
Crayon de couleur, le vert pour les pommes et les prairies, le jaune pour le soleil et les canaries, le rouge pour les fraises et le feu, le noir pour la nuit et les corbeaux, le gris pour les ânes et les nuages, le bleu pour la mer et le ciel, et toutes les couleurs pour colorier le monde.
Merci.
Which, where do you fly? Under the clouds and over the sky. Which, what do you eat? Little black apples from Hurricane Street. Which, what do you drink? Vinegar, black ink, and good red ink. Which, where do you sleep? Up in the clouds where pillows are cheap.
أهلا وسهلا اليوم سنقدم لكم شعر صغير من السعودية سنسمعك
طارق فوق السطح حمامة حتى صارت كل برمامة طارق عندي طايل وغمام أخمل من الوطن الأحلام هيا يا يا يتغل غيمة نحمى ومحمى أرض المحمى من كل مضل من كل نلج من كل معمول فوق المج من كل مرمول فوق المج
شكرا
شكرا
مع السلامة
مع السلامة
ماذا ستسمع لنا اليوم؟
أيام الأسبوع Seba, here Seba, a gamel uskuai Seba, Seba, here Seba, a gamel uskuai Seba. Septul ahadu, well if nail, a septul ahadu, well if nail, el fulasa. Arabia, el hamisu, well jua.
Shukran.
Afwan.
أهلا وسهلا اليوم سيسمع لنا أغنية سبي ماذا ستسمع لنا؟
أرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
شكرا
عفوا
Ça me rappelle le bon vieux temps.
Allez, c'est fini. Merci aux professeurs et aux invités qui ont contribué à cette émission. Nous espérons que cela vous a plu. Et on vous dit à très bientôt sur Radio Cartable et la FIGP.
Allez, au revoir.